Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Capagna et voici vos manchettes en ce mardi 22 septembre.
Le 7 juillet dernier, le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, le CAPVICH, lançait à Québec sa trousse « L'accessibilité au service des commerçants ». Au même moment, à l'autre bout de la province, la ville de Gatineau était à peaufiner un projet pilote semblable. Dans plusieurs municipalités, on consacre temps et énergie à promouvoir l'accessibilité des petits commerces. Responsabiliser les commerçants est une excellente stratégie pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées dans une municipalité, affirme Mme Anne Hébert, directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec. Des outils d'information comme une brochure sur l'accessibilité, des fiches techniques sur les normes d'accessibilité ou la trousse du CAPVICH peuvent être utiles à cet égard. Des stratégies de renforcement positif, comme le prix d'excellence qu'octroie la ville de Victoriaville, ou l'Association des personnes handicapées des îles, peuvent aussi contribuer à responsabiliser les commerçants. Votre municipalité ou organisme songe à promouvoir l'accessibilité des commerces de proximité? Pourquoi ne pas vous simplifier la tâche en profitant de l'expérience et des outils conçus par d'autres organisations? Parions que les précurseurs en ce domaine seront honorés de vous aider. Outre ces organisations, pensez à contacter les associations du Mouvement d'action communautaire autonome des personnes handicapées de votre localité. Celles-ci sauront certes vous offrir un éclairage pratique. Ces organismes, de même que les outils présentés précédemment, peuvent aussi appuyer les municipalités qui doivent ou qui désirent produire un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées. En juin dernier, le ministre Jean-Marc Fournier a déposé le projet de loi 56, loi sur la transparence en matière de lobbyisme, qui prévoit assujettir tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme. Si adoptée, cette loi aurait des impacts considérables sur les groupes d'action communautaire autonomes, comme la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN, et particulièrement sur les organismes de défense collective des droits. Elle aura également pour effet de faciliter la tâche aux lobbyistes du privé dans plusieurs domaines d'importance, dont ceux de l'éducation et de la santé et des services sociaux, mettant ainsi en péril la qualité et la gratuité des services publics. La COFAN fait partie du comité du travail du groupe d'organisations opposées à l'assujettissement de tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme, piloté par la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Avec une cinquantaine d'organismes, la Confédération a participé le 25 août à une rencontre d'analyse collective du projet de loi 56 et a contribué à la réflexion en produisant des documents expliquant les enjeux de ce projet de loi. Le comité de travail travaille présentement à la production de documents supplémentaires afin d'informer les groupes de base et les citoyens et de leur fournir des outils pour manifester leur désaccord envers ce projet de loi. Il est également crucial de se préparer en vue de l'étude du projet de loi par la Commission des institutions cet automne. Le calendrier de la Commission n'est pas encore sorti, mais on peut s'attendre à ce que la consultation sur le projet de loi 56 ait lieu dès octobre ou novembre. La COFAN a envoyé une lettre aux membres de la Commission afin de demander que la consultation sur le PL 56 soit une consultation générale et non une consultation particulière, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent y participer. Dans son accusé de réception, le bureau du ministre Fournier a informé la Confédération que la consultation à venir serait une consultation particulière élargie. L'annonce officielle n'ayant toutefois pas encore été faite, il est toujours temps pour ceux qui n'en l'ont pas fait d'envoyer une lettre demandant une consultation générale et signifiant leur intérêt à être entendus en commission. Pour recevoir les documents expliquant le contenu du PL 56 et en savoir plus sur les actions à prendre pour s'y opposer, veuillez communiquer avec Audrey-Anne Trudel, responsable du dossier, au 514-284-0155, poste 25, ou à l'adresse Audrey, A-U-D-R-E-Y.Trudel@cofan.org. Les enfants les plus hypothéqués de notre société n'échappent pas aux compressions en éducation. Deux enseignantes de l'école-hôpital Victor Doré sonnent l'alarme. Que le gouvernement arrête de dire que les coupes n'affectent pas les enfants, ce n'est pas vrai, répète d'une voix douce Nancy Bélanger-Pilon au Journal de Montréal. L'enseignante et sa collègue Marie-Pierre Connolly ont décidé de prendre la parole pour les enfants qui n'en ont pas. J'adore mon emploi, je ne veux pas me plaindre, mais les enfants ont moins de services et eux ne peuvent s'exprimer. Elles enseignent à l'école-hôpital Victor Doré de Montréal, fréquentée par 192 enfants souffrant d'un grave handicap moteur. La majorité d'entre eux, soit 59 % n'ont pas l'usage de la parole. Ces élèves qui apprennent très lentement sont incontinents, certains sont aveugles, d'autres sourds. Aucun n'est autonome. Ils doivent être nourris par un adulte et ne se déplacent jamais seuls. Dans nos classes, il faudrait 8 yeux et 16 mains, décrit Nancy Bélanger-Pilon. Le 9 septembre dernier, elle a vu un élève de sa classe tomber de sa chaise. La préposée qui m'accompagne donnait un soin d'hygiène à un autre élève. Si j'avais eu de l'aide, on aurait peut-être pu éviter ça. C'est devenu une question de sécurité, plaide-t-elle. Depuis 3 ans, le nombre de personnes ressources en soutien aux enseignants de l'école-hôpital est passé de 5 à 3. Le nombre d'élèves a pourtant augmenté, ce qui fait que toutes les classes atteignent le maximum de 8 enfants lourdement handicapés. Une classe est même en situation de dépassement, avec 9 élèves. Un seul élève de plus a un impact énorme sur nous physiquement, souligne Marie-Pierre Connolly. Dans une lettre récemment adressée aux médias, Nancy Bélanger-Pilon lançait un cri du cœur aux parents. « Je vous demande de vous lever, de vous manifester, de vous plaindre, de crier », écrivait-elle. « S'attaquer à l'éducation, c'est répréhensible. S'attaquer à l'éducation des enfants lourdement handicapés, c'est minable. Vos enfants méritent mieux. » Glover foulera dès demain avec la troupe K Public les planches du Royal Opera House à Londres. Si danser dans ce lieu mythique est un accomplissement pour la compagnie montréalaise, il l'est encore plus pour le danseur qui est atteint de surdité. Depuis 2 mois, à raison de 5 à 7 heures par jour, les 8 danseurs de K Public répètent et peaufinent Symphonie dramatique, une version contemporaine de Roméo et Juliette qu'ils donneront 6 fois en représentation au Royal Opera House à Londres. « Je ne me suis jamais autant entraînée », confie Kay Glover à Metro quelques jours avant son départ. « Je sais que lorsqu'on sera sur scène, le stress sera présent. Mais pour le moment, c'est une bonne source de motivation », poursuit le danseur bilingue de 29 ans. Atteint de surdité à la suite d'une méningite contractée à l'âge de 8 ans, il découvre sa passion pour la danse à 10 ans lorsque sa sœur l'incite à participer à Casse-Noisette. « J'ai réalisé que sur scène, je pouvais influencer les gens à travers le mouvement », raconte le Montréalais originaire de Prince-George, en Colombie-Britannique. Si son handicap ne l'a pas empêché de poursuivre son rêve, son parcours n'a pas été des plus simples dans un domaine où la compétition est féroce et où l'acharnement physique et mental est le lot quotidien des danseurs. « J'étais jeune, je ne savais pas comment gérer ma surdité, je n'en parlais pas et restais en retrait. » C'est lorsqu'il arrive à Montréal en 2012 qu'il aborde ouvertement sa surdité. Et c'est le début d'une nouvelle danse, une danse plus libre. Une sorte de liberté se dégage de sa danse, explique Hélène Blackburn, fondatrice, chorégraphe et directrice artistique de K Public. Parce qu'il n'est pas dépendant de la musique, il a une grande sensibilité et il a appris à se fier à ses autres sens. Il a toutefois reçu de nouveaux implants dernièrement, mais malgré ses implants à la fine pointe de la technologie, il n'entend pas parfaitement. Il a su développer sa technique pour être en symbiose avec les autres danseurs. Alors voilà, c'était votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Le bulletin, ainsi que les liens vers les nouvelles et organismes mentionnés, sont disponibles au vuesetvoix.com. Vous pouvez aussi nous envoyer vos nouvelles à canalm@vuesetvoix.com. Bonne journée tout le monde!